Faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque chaque mercredi matin. Bonjour. Alors, le sommaire de l'émission, ça va être. On va faire une critique de la psychologie, oui. Avec un article intitulé « Contes et légendes de la psychiatrie » trouvé sur parislutte.info. Donc un article du 11 mai 2023. Et puis en deuxième grande partie de l'émission, un large extrait de l'émission d'une émission de Radio Soin-Soin. Radio Soin-Soin pour une réflexion sur la psychiatrie faite par les usagers usagères et pour les usagers et usagères. Comment vivre ou même bien vivre quand on a des souffrances psy? Comment défendre ses droits? Comment trouver une alternative à l'hospitalisation? Comment lutter contre les préjugés et la psychophobie? Tels sont les thèmes qui seront le plus souvent abordés sous différentes formes, avec différents invités et reportages sur Radio Soin-Soin. Et c'est Radio Soin-Soin, donc c'est pas dans la région parisienne, non, c'est sur Radio Galère, voilà, qui est une radio libre qui émet à Marseille. 88.4 FM à Marseille. Et d'ailleurs sur le canal 8C de la RNT, Radio Numérique Terrestre. Alors pour commencer donc cet article de parislutte.info, Contes et légendes de la psychiatrie. Encore un effort pour casser la légende d'une psychologie courageuse travaillant contre la horde des nouveaux barbares, les psychiatres hospitaliers. La psychologie, une résistance, aujourd'hui? Point d'interrogation. Bullshit. Commençons par la psychanalyse, cette cousine de la psychologie. Il semble que l'écoute analytique ne soit guère soluble dans l'institution psychiatrique. Ou plutôt, ce champ de normalisation constitue pour la psychanalyse son plus grand danger. La psychiatrie n'étant au fond rien d'autre qu'un écho autoritaire de la norme sociale. Doit-on s'en étonner? Je ne pense pas, car si, écrit l'auteur, car si la psychanalyse se plie aux ordres de la psychiatrie, elle perd sa raison d'être. Elle a, hélas, de fait, perdu sa raison d'être. La mutation a eu lieu. La psychanalyse a abandonné toute rage. Elle s'est fait des habits neufs. L'analyse se sape désormais aux couleurs du discours managérial. Elle marche et faillote comme un bon soldat. La voici lèche-botte comme le psychiatre. Ciel, un deuil de plus. L'hérésie a disparu. Le temps est loin où Freud pensait apporter la peste aux réactionnaires de l'Amérique blanche. La psychanalyse en secteur hospitalier collabore à présent au système qu'elle critiquait autrefois. Sémiologie médicale, demi-écoute, entre parenthèses caricaturales, démarche qualité, entre guillemets, comme Écusson et autres cauchemars taxinomiques, bref, toute cette mascarade issue du management. Rappel. Longtemps cantonné dans le rôle du vilain garçon, la psychanalyse a pu jouer durant quelques années un rôle de résistance relative. Face à la brutalité insigne des psychiatres armés de leur sismothérapie, de leur cacheton neuroleptique et de leur toute-puissance diagnostique à deux balles. Mais la psychanalyse ne délivre plus de messages subversifs. La révolte s'est absentée. L'analyse est rentrée dans le rang. La position de la psychanalyse sur les minorités sociales, sexuelles, est affligeante de tiédeur politique. Quels psychologues ont le courage de prendre la parole face aux psychiatres ? Nous les cherchons encore. Leurs réunions n'ont d'institutionnel que le nom. La psychanalyse, dit-on, a longtemps semé l'incertitude dans les « consciences jugeantes », entre guillemets, les psychiatres. Ce temps n'existe plus. Créer du chaos créateur, est une tâche qui reste encore à accomplir. Les résistances en psychiatrie ne viennent pour le moment que des patients enfermés. Quel psychiatre ou quel psychanalyste aura le courage de porter, au grand jour, cette clameur ? Nous ne croyons plus aux contes de fées. En France, les scandales s'étouffent, c'est bien connu. Les légendes dorées de la psychanalyse internationale restent consternantes. Je songe aux pontes de l'IPA, Association Internationale de Psychanalyse. Alors, on pourrait dire plutôt l'IPA, puisque ce serait International Psychanalysis Association, quelque chose comme ça. Bon. À entendre les troubadours de l'IPA, la psychanalyse sut guérir plus de patients qu'il n'y a d'étoiles durant le songe d'une nuit d'été. Le hic, ce sont notamment les quelques traces de dossiers noirs sur la torture au Brésil. Prenons Amilcar Lobo Moreira da Silva comme cas d'école abominable, médecin tortionnaire et psychanalyste candidat à l'IPA aux ordres de la dictature. Jamais l'IPA ne désavoua vraiment l'engagement d'Amilcar. Tout fut ramené à de simples rumeurs. Le Brésil des années 70 est alors une terre de vacances pour les psychiatres analystes occidentaux. La dictature ne semble avoir gêné aucun membre de l'IPA. Scandale, vite refermé. Honte sur l'orthodoxie qui se prend tellement au sérieux. Comment expliquer pareil scandale ? Cela ne s'explique pas. Refuser de dénoncer l'horreur sur cet épisode est impardonnable. Maintenant, plutôt que de taper sur les intersubjectivistes, et si l'IPA plongeait son regard un peu sur ce qui se passe dans la rue et dans les hautes sphères psychopathiques où règne l'oligarchie financière, alors là, j'aurais pas ajouté psychopathique, personnellement, ce mot est parfaitement inutile. On peut très bien dire tout simplement dans les hautes sphères où règne l'oligarchie financière. Bon, je reprends le texte. Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la rue et dans les hautes sphères. Alors, aujourd'hui, depuis longtemps, en fait, tout est plié. Vinrent les années 2000, sans commentaire. L'hôpital public est devenu une pompe à fric. L'hôpital psychiatrique, un des lieux de soins les plus maltraitants dans ses fins et dans ses moyens. L'objectif ? Produire assez de turnover avec les patients pour que l'hosto, la boîte, fasse du bénéf. Un air de déjà-vu ? Une ère de balances opératoires. Il va sans dire que l'humanité du patient demeure dans ces circonstances annihilée, même atrocité en EHPAD. Et puis, Là où on ne s'y attendait pas, dans la psychanalyse, surgissent à nouveau des noms qui dérangent, des noms bientôt imprononçables, incompatibles avec les flux tendus du libéralisme, des noms comme Margaret Little, Winnicott. Pourquoi ? Parce que Little et Winnicott avaient une réelle éthique et prenaient le temps d'écouter leurs patients, ce qui n'est pas le cas des coachs, des managers psychologues d'aujourd'hui. Dans un autre champ théorique, nous regrettons également la comète Toscaïès, ou Toscaïl, à ne pas mélanger avec ses successeurs nombrilistes. Toscaïès, catalan antifasciste, instituant le droit de vagabondage pour ses patients, pratique impensable actuellement, vagabondage pour les patients, puisque tout doit aller vite. N'oublions pas l'énergie, hors champ médical, de l'indomptable Arthur Cravant, poète, boxeur, boxeur-poète et feu follet. Puisse sa nature explosive nous galvaniser. Voilà des combustibles précieux pour tout adversaire de la violence psychiatrique. Et n'oublions jamais le calvaire absolu de Camille Claudel et de Séraphine de Senlis, pour ne citer qu'elles, qui connurent l'enfermement définitif. N'oublions jamais qu'aujourd'hui, chaque jour, chaque heure, chaque nuit, la psychiatrie séquestre en toute impunité celles et ceux qui ne cadrent pas avec l'agencement social sécuritaire. Comment, après cela, écouter sans broncher les légendes de la vie asilaire ? Pour nous, une seule devise, non serviam. À cette aune, nous posons la question suivante. Comment un concept comme celui d'empathie peut-il disparaître de l'univers mal nommé du soin ? Il suffit de faire un séjour aux urgences pour constater cette absence. Empathie, c'est-à-dire tout ce qui se réfère au ressentir dans l'écoute et à la capacité que devrait avoir tout soignant d'analyser ses propres parties folles psychiques avant de s'atteler à la préservation d'un sujet. Car sans ce travail autoréflexif, comment prétendre entrer en contact émotionnel avec une personne souffrante ? En revanche, si les approches par l'empathie ont bel et bien disparu, le lexique pseudo-savant, lui, existe encore et fait toujours son cinéma. D'ailleurs, je m'interroge sur un certain jargon bâti autour de la formule « travail du penser ». Les écrits analytiques actuels qui me sont tombés dans les mains, écrit l'auteur, et me tombent des mains, toutes chapelles confondues, sont bien trop restrictifs, vols, abjects. Quant à la remédiation cognitive, cette arnaque suprême pratiquée sous la houlette des managers, elle fait bon ménage avec le fourre-tout théorique et en usage dans le champ psychiatrique. L'essentiel est de passer à la caisse. Mon ire, ma colère, ne s'arrête donc pas à l'IPA, que les choses soient claires. Tout aussi nocif pour l'équilibre des sujets en détresse, il y a l'incompréhensible survivance du mouvement lacanien sous sa forme la plus caricaturale. Lacan, ce prétendu oracle de la parole, aussi linguiste qu'un labrador. Lacan, l'inventeur illusionniste de la séance de plus en plus rétrécie et donc parfaitement soluble avec le mouvement des chronomètres dirigeant le secteur hospitalier. Il y a aussi le comportementalisme qui porte bien son nom et indique suffisamment l'élément idéomoteur sur lequel il suffirait d'agir l'élément idéomoteur sur lequel il suffirait d'agir pour mieux s'épanouir. Le comportement. On a beau y ajouter cognitivisme, la mystification demeure entière. La voici, l'aimable pestilence. Et dire qu'il existe encore, dans ce contexte, de la chair à divan fanatique, mais aussi des assoiffés de behaviorisme New Age qui osent encenser l'internement d'office et valorisent le travail sur soi, comme si l'attribut psy constituait un gage d'humanité et de vérité par avance. Assistons-nous à une nouvelle forme de team building en secteur fermé ? Soyons sérieux une minute. Si un ou une thérapeute peut se montrer bienveillant, bienveillante, il en existe quelques-uns, ou quelques-unes. C'est l'humanité du thérapeute qui agit en première instance et non le fanion qui lui sert de titre universitaire. Ce rappel d'évidence est presque désolant. C'est car à lire les auteurs spécialistes à la mode, il y en a tant, penser implique une préconnaissance du psychisme-cerveau. Mais par quel miracle connaît-on une matière cérébrale qui se modifie sans cesse ? Chimère ! Il semble admis en effet que le cerveau est doté de plasticité neuronale. Sur un autre plan, réfléchir de façon analytiquement correcte serait une activité consistant par exemple au cours d'une trajectoire thérapeutique à pointer un signifiant au cœur du discours. Et alors, trêve de poudre aux yeux, il ne suffit pas de s'astiquer avec la langue de Saussure, déformée, ou celle de Jacobson pour convaincre. Idem en ce qui concerne les grossières théories adaptatives. En effet, si l'on penche du côté TCC, se bercer de l'illusion que le patient va mieux parce qu'il s'adapte à la chair visqueuse du monde, relève du scandale éthique. Pardon. Dans cet ordre, avec un O majuscule, déconditionner un sujet de ses mauvaises habitudes n'est pas une formule à prendre à la légère. On ne quitte décidément pas le champ de l'ultralibéralisme ni celui du bien et du mal. Nombre de psys sont des juges et des prêtres. Gare à leurs anathèmes. Posons la question. Ces dispositifs de savoir-pouvoir sont-ils progressifs ou régressifs? Un aggloméré sans doute, mais enfin, la psychologie s'en tire bien pour ce qui me semble incroyablement pauvre, réducteur et complice d'un système autoritaire, stigmatisant et parfois meurtrier. Je n'aurais pas la décence, ajoute l'auteur ou les auteurs, à ce sujet, de trop évoquer la vague de suicides chez France Télécom et l'absence criminelle de réactions insurgées de la part des psychologues managers qui se désignent eux-mêmes comme spécialistes du travail. Ceux-là, comme les autres, ont les mains trop crasseuses. Qu'ils aient la conscience en paix est invraisemblable. Validité théorique des différents courants de la psychologie et de la psychiatrie. Un courant d'air, que des clichés attendus. Mais en profondeur, jamais rien n'est dit, finement, du sensoriel dans la solitude, du temps vécu comme épreuve impensable, sauf dans l'art, lorsqu'il réussit à exister entre les murs. Et j'évacue, bien sûr, dans le champ clinique, les déclamatoires analyses phénoménologiques qui feraient hurler Husserl et Brentano s'ils étaient encore de ce monde. Rien n'est dit non plus de l'absence d'une nécessaire co-implication du politique en termes de résistance au système hospitalier avec et contre le Léviathan psychiatrique. Question culture. Les psychiatres, analystes, psychologues s'imprègnent-ils de la forme poème ou de littérature autrement que par mimétisme, autrement qu'en médicalisant, autrement qu'en surplomb, en extériorité, toujours en rabattant, en écrasant les énoncés de la langue? Peut-être que les psys, au sens large, gagneraient en sensibilité à fréquenter plus humblement leurs patients, mais aussi à se pencher sur certains auteurs du lumpen, peintres enfermés, poètes déclassés, artistes que l'on prive de leurs œuvres et de leurs pratiques pour les neuroleptiser. L'essentiel serait que la horde des psychiatres aboyeurs ait un jour le courage de ne plus faire allégeance aux managers et à la démarche qualité. Je crains que ce jour ne vienne jamais si on ne le provoque pas d'urgence. Peut-être qu'un ou deux psychiatres structuralistes lâchement convertis au management, mais quittant cette tunique de Nessus, en deviendraient-ils plus modestes et quitteraient cette brutalité qui filtre dans leur infatuation, leur condescendance, si tragiquement visible par leurs patients, et chasseraient alors les médiocres certitudes qui leur laissent penser qu'un jour ils puissent dire le vrai sur le vrai. Je rêve, bien entendu. On ne fait pas disparaître si facilement une boursouflure narcissique. Non, il faut utiliser son imagination pour ça. Et face au turiféraire du management, se faire intempestif, c'est-à-dire se rendre irrécupérable. Je m'adresse à vous, psychiatres et psychologues, dont l'obscénité vous pousse à proférer que la pauvreté est un symptôme subjectif. Je cite un lacanien de renom. Eh bien, je m'adresse à vous, fuck you. Les travailleurs de la nuit viendront prochainement éclater vos certitudes. Au coin des yeux de ces patients que vous malmenez flamboie une lueur de malice que vous ne sauriez voir. Difficile en effet de comprendre comment ces diafoirus charlatans constructeurs de disciples arrivent à faire école. La perversité nichée au fond de leur cœur conserve sans doute une force propulsive. S'il est surprenant de découvrir chez les disciples de l'espèce perroquet, c'est-à-dire la communauté psy, les mêmes mots revenir comme de mauvais mantras. Qu'il est surprenant, donc. Citons pêle-mêle, tantôt adaptation, tantôt phallus, tantôt trouble fonctionnel de l'agir, tantôt trouble de la personnalité, tantôt castration, tantôt métaphore paternelle, tantôt objet A, RSI, chaîne de Markov, symptômes, bouteille de Klein, bande de Moebius, blabla, et surtout leur spécial, celui qui marche à tous les coups, l'imparable jouissance. Notion qui fonctionne comme un double bind, absout tous les analystes de leurs échecs. La jouissance donne la main à la réaction thérapeutique négative. Si un ou une patiente s'effondre au fil des années, se suicide, brûle ses chances, cela est pour le professionnel de santé forcément imputable aux forces de mort contenues dans le mauvais moi de la personne qualifiée de malade. Le « jeu défaillant » se plaisent à raffiner certains analystes. Autrefois, on eût parlé de résistance. Outre la laideur des sonorités lorsque survient le diagnostic psychiatrique, il y a aussi la pauvreté théorique et la présomptueuse volonté de comprendre et de réduire l'angoisse ou la création. La vie elle-même qui s'essouffle, toujours au même stase, toujours à un sale petit secret. Entité familiale, paranoïa, double mythique, masochisme moral, identification imaginaire à l'image de l'autre, sans oublier l'obscur bénéfice secondaire de la maladie. Quelle vulgarité de la part des morticoles de l'âme. Il se paie de mots. Analyste et psychiatre, si prompts à pointer les rationalisations secondaires chez leurs patients, feraient bien de s'examiner eux-mêmes et d'observer leur mépris. Je vise notamment l'affreux Gaston Ferdière, psychiatre responsable des 58 électrochocs pratiqués sans anesthésie sur Artaud à l'asile de Rodez. Ferdière s'attribuant le mérite d'avoir relancé chez Antonin le goût de l'écriture. On aura tout entendu. Je vise fondamentalement dans mes attaques, on l'aura compris, la psychiatrie actuelle, celle qui enferme, catégorise, justifie, ordonne, attache, éteint, surveille, détruit. Je rejette toute psychiatrie au service d'un pouvoir policier. Regardez les psychiatres, les psychologues, les analystes aux ordres se répandre sans honte sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Écoutez-les fournir leurs avis détestables sur chaque sujet d'actualité avec la satisfaction du devoir accompli. Écoutez leurs clichés réactionnaires, ils donneraient parfaitement la réplique à Raphaël Enthoven ou à Laurent Nunez. Et quelle absence de finesse crasse. Ne pas confondre la finesse avec la connaissance cumulative, la flasque érudition de salon. Quel désintérêt profond, authentique pour l'art et la révolution. Forcément. Difficile de ne pas désespérer. J'appelle collabo tous ceux qui bouffent à leur gamelle. L'émotion ne les traverse pas. L'émotion, le mot que nous n'avons jamais entendu en 20 années de mauvaise fréquentation lors de réunions de synthèse. Sans doute émotion est-il un mot trop profane, pas assez scientifique pour que, lorsque l'on écoute causer ses beaufs dans leur réunion du vide mensuel. Nos rages ont fini par faire de mes camarades et moi des êtres du ressentiment, donc forcément des dingues. Lorsque je songe à tous les chantres de la réadaptation de surface, ces bonimenteurs de la médecine mentale inféodée au meilleur des mondes, lorsque surgit en moi la représentation de ces juges à trois sous, je n'ai qu'une pensée, une seule espérance, qu'ils aillent au diable. Anarchie en psychiatrie, abat les camisoles chimiques. Voilà, donc... C'est un texte signé Vanda, Chino et Jade. Donc, trois à dire je. Se poursuit L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Nous allons maintenant vous faire écouter, si vous le voulez bien, l'émission Soin-Soin du... du 20 juin 2023. Donc c'était sur Radio Galère. Un petit mot sur Radio Galère. Oui, allez. Nous émettons à Marseille et aux alentours. Radio Galère, ce sont des infos, des reportages, des émissions thématiques, des émissions musicales, des ateliers pédagogiques et des plateaux hors les murs. Bien connu des Marseillaises et des Marseillais, Radio Galère est ouverte à qui peut s'y investir dans l'état d'esprit de la radio et le respect de sa charte. Radio Galère met en place des conditions pour que se fassent entendre les contestations et les luttes émancipatrices, pour que soient dénoncées toutes les injustices et discriminations présentes à tous les niveaux de notre société, pour débattre, discuter, élaborer des idées et des pratiques. Lieu d'expression, Radio Galère est aussi un canal de production, d'alimentation et de diffusion des cultures populaires, qu'elles soient marseillaises, méditerranéennes ou d'ailleurs. Avant tout, Radio Galère, c'est une poignée de permanents et permanentes, salariés et plusieurs centaines d'animateurs et animatrices, bénévoles et passionnés pour lesquels la radio libre et associative est un outil commun d'affirmation de leur pluralité et de leurs expériences. Voilà, c'est ça Radio Galère. Et donc je vais vous faire écouter donc cette première émission de Radio Soin-Soin, une émission qui sera mensuelle sur Radio Galère.
Nous sommes nous sommes avec vous sur Radio Galère pour parler de psychiatrie et de déconstruction un petit peu des images des préjugés. On va parler d'alternatives aussi à l'hospitalisation. Donc Radio Soin-Soin est là pour un peu remettre les usagers au centre du débat et défendre, pourquoi pas, leurs droits et revendiquer certaines notions de respect que la société, ou en tout cas les professionnels du soin et le grand public peut adopter. Ça serait chouette pour nous. Alors nous avons donc différents invités et surtout notre cher Alexandre Farcy. Qui est grand trésorier. Alors lui, il est trésorier.
Ah non, on parle pas
là-dessus. Non, t'es trésorier dans quand même plein d'associations autour de la psychiatrie. On sait pas pourquoi. Alors,
t'aimes le fric.
Ah, on dirait. Voilà. Quoi, hein. Et parle-nous plus.
Il y a pas beaucoup de sous. Hein.
Parle-nous plus amplement. Recule de 30 même ouais. 30 mm de ton Vas-y. Micro, parce que ça va faire mal aux oreilles.
C'est mieux là.
Ouais, super. Okay. Et parle-nous un petit peu donc de toutes tes activités.
Non, moi je tenais plutôt surtout à parler de l'advocacy.
Donc c'est quoi advocacy?
Qui est une association donc d'usagers en santé mentale et qui existe quand même depuis 25 ans. Donc a quand même un peu qui est un peu rodé.
T'avais quel âge quand
Mais moi du coup. À l'époque, j'avais 15 ans, mais bon, bref.
Déjà, à l'époque, je faisais trésorier à 15 ans, c'est génial.
Non, à 15 ans, j'étais pas éloigné de la psychiatrie et du champ de la santé mentale. J'étais concerné aussi à travers une personne de ma famille. Donc, j'étais déjà un peu en prise avec ce champ-là. Mais j'avais absolument aucune implication et aucune inscription sociale ou militante dans quelconque association. Ça m'est arrivé un peu plus tard, via notamment donc Advocacy, que j'ai rencontré à la fin de mes études. Bref.
C'était à Caen, c'est ça, ça...
C'était à Caen, ouais. Alors, ouais, c'est une association nationale, ouais. Mais qui part de Caen. Sous l'impulsion donc de personnes psychiatrisées à l'époque qui voulaient se constituer en association. Cette association s'appelait OSER, donc ça veut dire association d'usagers solidaires et réagissant en santé mentale. Donc un petit collectif de personnes psychiatrisées qui voulaient sortir du soin, en fait, parce que on parle beaucoup du soin, mais en tout cas les personnes ne voulaient pas entendre le soin que dans son acception exclusivement médicale. et que le soin aussi il pouvait passer par d'autres manières de faire, et notamment de resocialiser. Ça peut être aussi ça le soin. Ouais. C'est pas, faut pas voir ça qu'à travers le prisme de la médecine. Mmh. Donc il y avait cette volonté là. En tout cas, c'était de sortir de l'hôpital, des structures médico-sociales, etc. Tout ce qui touchait au soin, mais le soin dominant, comme on entend de manière générale, pour juste rompre avec l'isolement, se retrouver entre pairs, faire de l'entraide. Sortir des dispositifs un peu aussi, il y avait aussi cette idée-là, enfin, donc c'était fin des années 90, 98-99, et donc les personnes se sont retrouvées autour de cette association et ont ouvert de manière assez informelle un des premiers groupes d'entraide mutuelle, donc plutôt un groupe d'autosupport on va dire. Le groupe d'entraide mutuelle, après, ça a été, ça s'est institutionnalisé.
Ouais.
L'État a trouvé pas intéressant l'idée, mais en tout cas, ça a désengorgé un petit peu l'hôpital. Ouais. Donc, ils se sont dit, il y a peut-être moyen de profiter en fait de ces initiatives pour désengorger les hôpitaux, et puis derrière amener aussi trahir un petit peu la philosophie des premiers groupes d'autosupport et des premiers groupes d'entraide mutuelle, qui étaient vraiment basés sur des idées d'autogestion, d'entraide, de solidarité, etc. etc. Donc ça, c'était en 99, donc l'asso s'est créé, le groupe s'est créé, et puis petit à petit, Advocacy a fait le choix de... d'aller chercher des sous, des subventions, et donc de rentrer un petit peu plus... dans le cadre que pouvait imposer, proposer l'ARS, l'État. Ouais. Mais à l'origine, c'était vraiment une association basée sur l'autogestion. Et donc, ça a un peu changé. Maintenant, on parle de groupe d'entraide mutuelle, mais le groupe d'entraide mutuelle, ça ne veut plus rien dire, dans le sens où... il y a autant de groupes d'entraide mutuelle que d'hôpitaux psychiatriques en France, quoi. Et des philosophies très différentes.
C'est devenu une institution, du coup, pour toi, ou
Non, pas. Enfin, si on pourrait parler d'institution, mais en tout cas, il y a différentes pratiques et manières de faire dans les GEM. Il y a des GEM qui relèvent encore d'une organisation sociale de type horizontal. Ça existe encore, mais il y a beaucoup de GEM où on retrouve en fait les manières de faire qu'on pouvait trouver dans les hôpitaux.
Okay.
Oui,
mais ça coûte moins cher à l'État, c'est pour ça que ça a été un petit peu aussi mis en avant. Enfin,
oui, bien sûr.
Parce que tu as en fait un GEM, il y a quoi ? Il y a un ou deux animateurs qui sont parfois psy ou.
C'est ça.
Après, voilà quoi, c'est pas grand chose.
C'est ça. Alors qu'initialement, l'idée c'était justement de se dispenser en fait de tout professionnel. Que ça soit des animateurs ou surtout des professionnels de santé en fait. Okay. Les GEM à l'origine c'était on ne veut pas de professionnels de santé.
Okay.
En fait on veut arrêter de parler de santé mentale ou de maladie mentale. On veut juste parler d'autre chose que de la psychiatrie, etc.
Ouais,
et en fait retrouver parce que les personnes psychiatrisées ont toujours il y avait une thèse là-dessus de Anne Goltz que je trouvais intéressant qui parlait du lien psychiatrique comme lien social généralisé en fait. Et qu'en fait les personnes quand elles sont prises dans le champ de la psychiatrie, le lien social aussi passe par la psychiatrie.
Eh oui.
En fait, du coup, tu ne sors jamais de la santé mentale.
C'est un peu la chronicisation des gens aussi.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Donc voilà, l'idée c'était vraiment les professionnels de santé, non, on n'en veut pas. Les animateurs, on n'en veut pas non plus. Nous, on veut animer nos groupes, on veut être autonome dans ce qu'on apporte, dans nos activités, dans notre militantisme aussi, parce qu'il y avait aussi ce volet militant et politique. Qui existe toujours, et justement à l'époque les associations d'usager mental ont commencé à fleurir en France.
Voilà. Ouais, avec l'UNAFAM, c'est depuis quand ?
L'UNAFAM c'est un petit peu plus vieux je crois, après c'est pas du tout la même manière de...
Oui je sais, mais justement ce niveau associatif, y a eu quand même une sorte de... ça s'est un petit peu popularisé quoi, ce genre de groupe d'autosupport.
Ah oui complètement, oui bien sûr, ça s'est développé, et les groupes d'entraide mutuelle aujourd'hui on en a partout.
Ouais. Et Marseille, il n'y en a que 4 malheureusement, alors que...
Il pourrait y en avoir
4 fois plus.
4 fois plus, ouais, 40 fois plus. Non, mais... Donc voilà ce que j'avais à dire à propos de...
Juste une petite parenthèse pour les GEM à Marseille, donc je viens de dire qu'il y en a 4. Essayez de voir dans votre quartier ou demandez à votre médecin si vous ne connaissez pas le système. Mais il y en a peut-être dans votre quartier. Alors je sais qu'il y en a, je crois qu'ils sont quasiment tous en centre-ville. Hein, c'est un peu l'hypercentre malheureusement, mais en tout cas... Vous êtes les bienvenus pour les appeler, leur demander si vous pouvez aller faire un tour. Hein. C'est généralement des gens très gentils, accueillants, qui, c'est parfois dans un appartement, parfois dans un local, mais en fait, il y a des bibliothèques, des activités, vous pouvez vous poser, lire un livre. N'hésitez pas à les solliciter, parce que, encore une fois, rester tout seul quand ça ne va pas bien, c'est pas génial souvent. Donc, si vous ne connaissez pas le dispositif... Vous tapez GEM Marseille, vous aurez tout ce qu'il vous faut sur Internet.
J'ai une blague d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est un poil en dépression ?
Ça, c'est Marlène Lingesson qui boit de la bière
un
et qui fait des blagues.
Un
poil interné, c'est ça ?
Un poil pubien.
Ah, parce qu'il va plus bien.
Ah, oui,
si. Voilà. Donc voilà, si vous en avez marre de Marlène, vous pouvez appeler le 04 80 08 28 10 et vous aurez un. Au troisième appel, on la vire. ok, très bien. Et advocacy, moi je pensais aussi que c'était beaucoup sur le droit, la défense des usagers, etc.
Si, il y a ça aussi, et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Sonia,
okay.
Camarade d'advocacy.
Ok. Parce qu'il y a les GEM, mais advocacy, c'est pas un GEM. C'est plus qu'une structure qui chapeaute les GEM, c'est encore autre chose.
En fait, les GEM, maintenant, si tu me permets, Sonia, oui, après je te laisse la parole. Les GEM, en fait, ils doivent être maintenant, dans le cahier des charges, en fait, ils doivent être parrainés par une association. Par une association en santé mentale. Et Advocacy parraine un certain nombre de GEM en France, donc notamment à Caen, en Normandie, en Bretagne, dans le Nord, en région Île-de-France. Et du coup, à Martigues, qui a été donc le GEM ouvert par Sonia, à qui je laisse la parole maintenant.
Sonia, bonjour. Rebonjour.
Rebonjour. Maintenant, c'est juste pour ajouter qu'Advocacy, la particularité, c'est qu'on est formé en droit des usagers. Ouais. Et on est beaucoup être représentant des usagers, ce qu'il faut savoir qui est très important, puisqu'on fait respecter la parole des personnes qui sont hospitalisées.
Ouais.
Et on essaie de faire valoir leurs droits.
Ouais.
Donc tout ça, on est formé. Et on est complètement différent de l'UNAFAM, puisque là, c'est les parents et amis des usagers. Donc une personne qui a problèmes psychiatriques ne peut pas en faire partie. Et c'est un peu, dans notre jargon, on les appelle les amis des bêtes. Pour aller loin. Donc,
mais on va rappeler ce que c'est que l'UNAFAM, donc c'est l'Union Nationale des Amis.
Des amis, de la famille, je ne sais pas, des malades mentaux peut-être, je ne sais pas. Ça doit être dans le style, quoi.
Ils sont sollicités généralement lorsque les personnes ont un proche qui ne va pas bien et qu'en gros, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils aident les aidants un petit peu, c'est ça ?
Oui, en fait, à la base, ils ont été créés pour sauver la partie riche de la famille, c'est-à-dire de la fratrie, laisser les personnes à l'hôpital avec le juste besoin pour dire ils sont sauvés, les pauvres, ils sont traités, et pour que l'autre partie riche soit bien garnie et laisser les fous dans les mouroirs, en fait, à la base.
Okay.
Maintenant, c'est eux qui ont le plus gros capital et c'est pas des usagers. Donc ils parlent de nous sans nous, comme d'habitude.
D'accord.
Voilà. Ils sont représentants d'usagers, alors que on peut pas parler rémission quand on n'a pas eu le cancer, donc ça me choque un peu.
Ouais, certes.
Mais j'ai rien contre eux, quoi.
Oui, mais c'est un peu l'association dominante en France en psychiatrie, quoi.
C'est ça, parce que toutes les personnes qui veulent gérer les dits psychiatrisés, ne sont pas psychiatrisées, puisque c'est nous qui avons une tare, donc on doit être géré par des gens qui n'ont pas de tare, comme les psychiatres. Et après les psychiatres, il y a l'UNAFAM. Enfin, ils essayent de maîtriser.
Ouais.
Je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises volontés, mais ils ne peuvent pas savoir ce qui est le mieux pour nous.
Ouais, bien sûr.
Heureusement qu'il y a les directives anticipées et tout ça, pour qu'on puisse un petit peu...
On va revenir du coup sur... Oui,
moi je ne sais pas ce que c'est une directive anticipée.
Alors, c'est un droit qu'on a de rédiger avec les psychiatres, etc. C'est ses choix, ses voeux. En fait, en cas d'hospitalisation, quand tout va mal, quand la crise, on a une crise, une grosse crise et qu'on ne sait plus... On met en avant les médicaments qu'on ne veut pas, le traitement qu'on ne voudrait pas. Par exemple, il y a des médicaments auxquels je réalise très mal, qui vont me rendre encore plus agressive. Ben, on les note les personnes qu'on veut qu'ils soient au courant, pas d'autres. Par exemple, moi, il y a certains membres de ma famille ou des amis, je ne veux pas qu'ils soient au courant. Il y a des médicaments que je refuse. J'essaye un maximum d'éviter la chambre d'isolement, parce que ça se passe très mal pour moi. Voilà, c'est toutes des directives qu'on essaye de mettre en avant et on essaie de les démocratiser sur Internet et par tous les moyens. Il y a une psychiatre à Marseille qui fait ça. Et j'espère que ça va bien avancer parce que ça nous donne des droits et des écrits.
Ça permet de prendre un peu de l'empouvoirement aussi sur sa maladie psychique.
Ouais.
Tout à fait.
On peut reprendre un peu le contrôle des choses. Quoi.
C'est ça.
Tout en ayant plus le contrôle parce qu'on est sûrement en crise psychotique.
Voilà, on est si en pouvoir. Voilà, ça évite certaines piqûres quoi, parce que le Loxapa plus le Tertian, quand on m'a remarqué non. Mais bon, il faut avoir les bonnes personnes de confiance à côté. Quoi, parce que... Mais bon, on commence à les respecter de mieux en mieux.
Parce que, ouais, c'est récent, du coup. C'est récent que ce soit respecté
Déjà, ça a peut-être 8 ans qu'on puisse les rédiger, qu'ils soient vus par des psychiatres, mais ils ne sont pas obligatoires encore en France.
Mais ils font quand même valoir de droit. Hein.
Ils font valoir de droit.
Surtout la personne de confiance fait valoir de droit sur les directives anticipées.
C'est ça,
un article de la loi, je ne sais plus c'est lequel.
Mais c'est dans le code de la santé publique. C'est encore les psychiatres qui peuvent décider au dernier si vraiment on est trop en crise. C'est encore eux qui ont le dernier mot.
Oui, bien sûr.
Pas dans tous les pays. La France, on est vraiment en retard. Ouais.
Et c'est quel pays, du coup, qui est plus en avance là-dessus ou
Je sais plus trop, mais je sais que dans les Pays-Bas, dans tout ce qui est, je sais plus. Alex, tu peux peut-être m'aider.
Non, mais ouais, les pays anglo-saxons,
Canada,
oui,
c'est là d'où tout vient, non, un peu.
Ouais, beaucoup, oui.
Oui.
De toute façon, la paire et danse vient de là-bas.
Oui, la paire et danse.
L'empowerment aussi, tu
parlais. L'empowerment,
oui. Les frappes, les...
Il fallait qu'on déménage là-bas, tous.
Ouais.
En ce qui concerne, du coup, les droits des usagers et advocacy, est-ce que tu pourrais dire à ceux ou celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils se sentent un petit peu spoliés dans leur parcours de soins? Est-ce qu'advocacy peut être appelé? Qu'est-ce que tu... D'un point de vue général, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui est usagère de la psychiatrie, qui voudrait se faire entendre d'un point de vue légal et se faire respecter?
Alors déjà, il y a le site Advocacy France,
ouais.
Il y a la paire Advocacy, mais avant tout, sur chaque hôpital, il y a le nombre de deux suppléants et deux titulaires de représentation des usagers, toutes maladies confondues. Donc après, on appelle une personne qui va tout de suite aller voir la personne qui s'occupe des personnes psychiatrisées.
C'est la commission des usagers, ça,
oui.
CDU ?
C'est la CDU,
okay,
voilà.
D'accord.
Il y a une personne qui va prendre en charge les besoins, les doléances, il y a les plaintes et les réclamations des personnes qui sont en difficulté.
Ouais.
Et là, ben, on doit faire respecter leurs droits, leurs paroles et leurs attentes.
Est-ce que ça marche, généralement ?
Oui, on écrit à l'hôpital, on intervient, on vérifie. Et oui, puisqu'il y a des dossiers, après, c'est sûr, c'est trié.
Ouais.
Mais oui, franchement, c'est vérifié.
D'accord.
Ça avance de plus en plus.
Question pratique, vous l'avez déjà fait à la conception, par exemple ?
Et moi, j'étais à Martigues et au Trois-Lucs.
Ouais. Ouais, donc oui, j'étais là-bas.
Ouais, moi, j'étais un peu partout aussi. Mais bon, après... malheureusement, c'est le contrôleur qui devrait passer, pas nous.
Mais du coup, ça marche dans les cliniques, mais ça marche aussi dans les établissements publics, c'est ça
que
je veux dire.
Oui, j'étais dans un établissement public, ça s'est bien passé, mais après, ce qu'on fait devant et derrière, il y a la maltraitance, elle est vraiment trop haute par rapport aux représentants d'usagers qui sont même pas à peine défrayés, il en manque. Et les abus psychiatriques qui sont de plus en plus importants, camisole chimique.
Ouais.
Donc on n'est pas la police, on n'a pas les droits, on n'a pas les moyens.
Oui, c'est ça. Bah, donc à la fin, c'est un petit peu toujours les médecins. J'ai l'impression que ça reste toujours compliqué, encore aujourd'hui, de faire entendre sa parole quand on est usager.
Même en CDU, on reste l'usager, on est un peu le faire valoir. On y reste pour dire on met un pied dedans pour y être.
Ouais.
De façon pérenne après.
Ouais.
Mais au début, on se prend un peu des claques parce qu'on est avec des médecins, des chefs de service.
Ouais.
Ils disent, toi, tu es quoi, la borderline du coin.
Ouais.
Il faut vraiment s'imposer, connaître ses textes.
Ça, de manière générale, en France, on est vraiment sur un traitement des patients extrêmement paternaliste, discriminant, mais Enfin, à un point, alors voilà, la position, généralement, on se dit, ouais, les médecins, quand même, c'est des gens cultivés, des gens instruits, des grands scientifiques.
Des dominants, surtout, beaucoup.
Oui, mais dans le sens où ils peuvent avoir un certain point de vue et intelligence face aux usagers, face aux patients, et une certaine considération. Mais en fait, ils sont extrêmement, très souvent, très... ouais, conservateurs, avec un ascendant sur tout le monde, ils veulent être les chefs. C'est assez impressionnant, quoi.
C'est vraiment une notion d'ego aussi, j'ai l'impression.
Ben oui, c'est ça.
Mais c'est eux qui détiennent le savoir et toi, tu ne sais pas, alors tu n'as pas à poser de questions.
C'est très hiérarchique, tout
ça. Ouais, c'est un peu aussi le fait que. Ils font tous la fac de médecine, donc en médecine, on leur apprend assez tôt que c'est un peu les rois du monde, quoi. Vous êtes médecin, vous êtes l'élite, etc., etc. J'ai l'impression que ça, ils prennent la grosse tête, mais très, très vite. Peut-être qu'ils l'ont déjà même avant d'entrer en fac de médecine. Je sais pas.
la classe... C'est pour ça qu'ils y vont.
Ouais, peut-être aussi. C'est pas bête, hein, c'est sûr. Il y a peut-être un lien là-dedans. Mais donc voilà, c'est aussi contre ça qu'on doit se battre. Nous, les usagers, c'est à réussir à avoir un peu plus de parole, de poids face aux médecins qui ont un petit peu... Enfin, c'est quand même délicat de... Alors évidemment, moi, quand je vais voir un médecin, je me suis cassé le pied, il me dit de faire des trucs, ok, c'est cool, d'accord, je veux bien le suivre, parce que je sais qu'il va s'intéresser qu'à mon pied, mon os, mon muscle, etc. Mais quand on va voir quelqu'un qui va nous donner des médicaments qui altèrent clairement nos perceptions, nos attitudes, nos humeurs, c'est difficile, on lui donne quand même une grosse partie de nous au médecin et de devoir donner cette partie de nous à des gens qui en fait nous prennent juste pour des détraqués ou des... Je sais pas, mais ça reste vraiment une problématique, pour moi en tout cas, qui est assez centrale. C'est pour ça que moi d'ailleurs, tous mes médecins, mes psychiatres, c'est un peu des potes, quoi. Mon médecin, c'est un pote... un super, super mec, et mon psychiatre, c'est une personne que je tutoie, que je peux aller boire des coups avec, et voilà, il y a un rapport qui est c'est beaucoup plus sain, moi, enfin, là-dedans, quoi. C'est pas un médecin derrière son bureau tout propre avec la petite stylo plume et le truc d'ordonnance qui me dit bon monsieur, tenez, prenez ça. Voilà, moi j'ai un peu réussi un peu comme ça à avoir un petit peu plus de poids dans les consultations, mais ça reste très très rare, je trouve, quand je parle un peu. Je ne sais pas si vous avez des bonnes relations avec vos médecins, vous.
Moi, je m'entends très bien avec la mienne, et c'est ce qui fait que je suis guérie, parce que on est quand même soumis à la sectorisation, faire un marching.
C'est quoi la sectorisation ?
La sectorisation, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur par rapport à là où à notre lieu de vie.
C'est ça.
Donc moi, c'était secteur 24, psy, je n'ai pas choisi, je faisais 109 kilos, je marchais 5 mètres, je ne pouvais plus marcher, j'en avais rien à cirer. Jusqu'à ce que j'ai réussi à aller à Marseille dans un autre service.
Ouais.
Et là, j'ai eu ma psy qui est partie de ce service. Je l'ai suivie à l'autre bout du département, on va dire.
C'est précieux, mais, un bon psy. Hein.
Voilà, c'est tellement rare. Parce que sinon, c'était cachot, chambre d'isolement, les petits clopixols, alors que je ne suis pas psychotique. Allez, encore 4 petits Valium. Je ne marchais plus, je bavais. Ils s'en foutaient, quoi.
Ouais.
J'ai mis mon mal-être, il va, vous m'avez fait prendre 40 kilos, ils s'en foutaient. Allez, on continue.
Okay.
On endort encore un peu. Allez.
C'est terrible, ça.
Et on m'a dit, non, vous habitez Martigues, vous restez là.
L'errance thérapeutique aussi, c'est vraiment...
C'est
un gros truc. Alors là, effectivement, il y a l'antenne, il y a le téléphone, vous pouvez nous appeler, mais si vous avez des questions aussi, si vous envoyez un mail à contact@soinsoin.fr, on peut vous répondre aussi, je ferai circuler au crew. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si vous êtes plus à l'aise par l'écrit, contact@soinsoin.fr. Mais c'était quoi cette sorte d'errance thérapeutique? Mais ça, en fait, trouver un bon psy, c'est déjà un truc en soi, quoi. C'est pas genre, va voir un psy, allez, ça va aller mieux. Tu vas voir un psy,
va voir un bon psy, ouais. Mais j'ai une amie qui me disait que c'est aussi le système, en fait. Souvent, c'est pas un choix, en fait. Les psys, en fait, enfin, voilà, ils choisissent pas, en fait, forcément, quoi. C'est selon leur classement, en fait. C'est ce qu'on m'a expliqué il y a pas très longtemps, quoi. Et ben, en fait, si t'es super bien noté, tu vas être chirurgien, enfin, tu vois.
Ah oui, c'est en médecine, oui.
Et voilà, et du coup, il y a effectivement...
Ah oui, le psy, c'est un peu
le mouton noir, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, j'imagine aussi, c'est le plus rabaissé, le plus... Enfin, voilà. Et puis, c'est aussi, oui, du coup, des gens qui n'ont pas du tout...
Tu veux dire qu'ils choisissent pas? Ils n'ont pas choisi, ce parfois?
Bah, non, ils se retrouvent là parce que... Enfin, voilà. Et donc, il y en a certains, oui, ou certaines qui ont, décidé d'être psy avant, en faisant les études de médecine, mais j'imagine que sur le nombre, c'est pas beaucoup. Enfin, je sais pas, je te vois.
Si, c'est pas du tout une vocation, en fait, psychiatre. Et ouais, c'est le dernier choix que font les médecins, enfin, les étudiants en médecine.
Ça, alors, ouais, vous l'apprenez, ouais.
Si.
À chaque fois que j'ai eu des rendez-vous, je me suis demandé s'ils voulaient vraiment faire ça, en fait. Ça se ressent, en fait. Même là, moi, ça fait un an. Moi, je suis dans une situation, là, je savais même pas que c'était possible. Ça fait presque un an que je suis sous paroxétine, alors que je suis plus suivie en psychiatrie parce que mon dossier il est abandonné par la dernière psychiatre qui s'est barrée parce qu'ils échangent tous les 6 mois là, et au lieu de transmettre mon dossier à la personne d'après comme d'habitude, elle a juste abandonné.
Psychiatre de quel qui est en libéral ou
C'est à l'HP à la conception.
Ok.
Et en fait du coup j'ai pas réussi à les avoir au téléphone pendant des mois, j'ai appelé tout le temps. Et le jour où je les ai eus, ils m'ont dit qu'il faudrait attendre 3 mois et tout. Alors
pour avoir un rendez-vous avec un psy.
Ouais, mais comme si j'étais nouvelle en fait. Ouais. Et moi, ça fait un an que mon ordonnance pour un antidépresseur qui est quand même lourd, je l'ai par des rendez-vous en visio avec des médecins généralistes que je connais pas en 10 minutes.
Ouais.
Là, j'en ai plus depuis aujourd'hui. Il faut que je fonce. Demain, il faut que je trouve un rendez-vous pour en avoir un. Quoi.
Ouais, je connais ça.
Je prends des doses au pif, hein, je suis plus suivie.
Il faudrait que. Moi, j'ai un psy là. Mon psy d'ailleurs, il a ouvert un centre à Marseille pour les jeunes vers la place Sébastopol. Ils sont cool. Moi, peut-être je pourrais te donner.
Bah ouais, pourquoi ? Parce que là, j'ai réussi à les avoir. J'ai eu pour août, mais. Puis aussi, si on a besoin de traitement, c'est qu'on n'est pas forcément en mesure d'appeler. Moi, il y a des moments où je pouvais pas appeler parce que je fais de l'hypersomnie. Des fois, je me réveille et c'est la nuit. Et au final, le jour, je dors. Enfin, c'était vraiment compliqué.
Ouais, c'est
pas normal.
Et
quoi.
Du coup, comment tu fais quand tu as cours de médoc comme ça? Tu vas faire encore une visio là?
J'appelle du moment qu'on montre une ancienne ordo. Franchement, ils donnent tous. Mais ça aussi, je sais pas si c'est bien ou pas.
Les pharmaciens.
D'un côté, ça dépanne. Ça m'est arrivé en pharmacie de pouvoir y aller sans rien, parce qu'ils me connaissent.
Oui, c'est vrai. Ça.
Mais les médecins, je trouve n'importe quel médecin sur internet, si je lui montre une ordonnance d'il y a 3 mois d'un autre généraliste, ça marche. Mais en fait, c'est-à-dire que je pourrais faire ça toute ma vie sans aucun problème, alors que ça pourrait faire des années que j'ai pas vu un psychiatre, quoi.
Ouais, c'est pour ça que généralement, ils le font pas trop, ou alors ils te demandent si tu vas avoir un psy. Ouais. Mais ça aussi, c'est quand. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de plus avoir de médoc, et je me dis allez, j'en ai pas demain, c'est pas grave, je peux sauter un jour. Généralement tu peux le faire, mais moi c'est le deuxième jour je sens déjà les effets du sevrage, je suis un peu dans tous mes états, donc je cours un peu dans toute la ville, dans des pharmacies. Alors les pharmaciens qui te voient arriver sans ordonnance, sans rien, parce que tu l'as perdu et du coup ils veulent pas te donner un médicament ultra généré, ultra classique, enfin bon voilà, c'est assez c'est, ça aussi encore une fois c'est une position avilissante, enfin dégradante, où tu dois arriver voir un pharmacien ou un médecin en disant s'il vous plaît je voudrais mon traitement, alors que putain c'est des médocs.
Là on peut faire les liens avec la toxicophobie.
Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, c'est un truc assez difficile, moi je trouve. Putain, c'est vous qui me mettez me mettez addict de cette molécule, de ce médicament, et après vous voulez encore que je vienne vous supplier de la prendre. C'est incroyable, quoi.
J'ai passé des après-midi comme ça à errer dans les pharmacies. J'étais là, mais c'est fou d'en arriver là, quoi.
Ouais.
Il y a même les ordonnances sécurisées. Par exemple, le Mechipelidate pour les TDAH que je prends, non seulement il est payant si tu ne l'as pas depuis que tu es petit, donc tu l'as pour 50, 100 balles, et en plus il faut mettre dépassement, basculement d'ordonnance, je ne sais plus trop quoi, et il est au coffre dans stupéfiant, quoi.
Okay,
tu envoies ton gosse le chercher, stupéfiant, tu es grillé.
Ah putain.
T'as trop honte d'aller chercher tes médicaments, je te promets. Tu as le sachet avec les stupéfiants et tout.
C'est chaud quand même. Hein.
L'ordonnance valable 48 heures, c'est la honte.
Ouais, mais voilà, c'est le genre de choses qui font que nos vies sont quand même assez difficiles, quoi. Alors que c'est pas grand chose, quoi. Mais ils s'en foutent complètement, c'est pas leur.
Pour eux, c'est des amphétamines.
Ils sont pas formés pour ça, qu'est-ce qu'ils ont? Ils en ont à foutre que tu aies un sachet. Et du coup, par rapport. C'est vrai que Marlène nous disait que vous voulez parler de toxicophobie, entre autres, Héloïse et Sakharine. Vous avez amené un petit peu des. Vous avez même une petite rubrique, tu me disais, Louise, où vous voulez parler de quelque chose en particulier?
Bah oui, peut-être. Là, si on voulait parler de toxicophobie, peut-être qu'on peut mettre une petite chanson pour faire une pause.
Alors moi, je vais faire une petite pause. On va faire une petite pause avec, si vous permettez, un extrait d'un film qui est vraiment génial. Vous pouvez le taper sur YouTube. Il est en en libre accès, s'appelle Histoire autour de la folie. C'est en deux parties. Là, c'est la partie 1, je vous mets un extrait. La partie 2, j'ai essayé de la retrouver aujourd'hui, elle n'y est plus. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est l'histoire de. Ça reprend un peu l'hôpital psychiatrique de Villévrard, qui est à faire Paris, là où il y a eu beaucoup de gens qui sont passés là-bas, Camille Claudel, entre autres. Et donc, la première partie reprend toute l'histoire de cet hôpital. Et la deuxième partie, l'histoire plutôt contemporaine. Là, je vais vous mettre un morceau de la première partie. Alors, Marlène, est-ce que tu peux appuyer sur play? Et on vous laisse et on se reprend juste après.
C'est les concours publics d'architecture. Sur quel type de construction on allait pouvoir, sur quel modèle on allait pouvoir soigner les gens. C'est toujours dans la symétrie, côté homme, un côté femme. Les grandes classifications de malades, on les retrouve. Hein. Donc, il y a la partie des aliénés, la partie des alcooliques, et puis les habitations du personnel. Parce que l'idée, à l'époque, c'était quand même de centraliser sur Villévrard tout ce qui existait dans la vie. L'idée principale de ce moment-là, c'était de créer des lieux de faire semblant. Hein, c'était des lieux dans lesquels on allait faire semblant de vivre comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on y avait la ferme, on avait la porcherie, on y faisait le pain, on y vivait, on faisait tout
on
ça.
Vous les voyez quand ils allaient planter leurs pommes de terre, ils avaient des cochons, ils avaient tout ça.
Oui, c'était un village.
Tout le linge des malades et tout ça, c'était lavé à la main. Alors ça n'était pas drôle, hein. J'avais des draps. Pour voir le linge qu'il y avait, il y avait la maison de santé, il y avait l'asile, hein. Ah, il y avait des malades qui aidaient, hein. Il y avait des malades qui nous aidaient, oui. Des hommes surtout.
La seule détermination duquel on peut retrouver trace, c'est des espèces de fantasmes un petit peu fous. Par exemple, on disait que les lieux de la folie devaient être construits là où les vents dominants ne risquent pas d'envoyer sur la ville les miasmes de la folie. C'était l'utopie, c'était la grande erreur de ce moment-là. Comme si il suffisait de mettre les fous en dehors de la ville pour que la cité vive en paix. C'était le modèle de l'exclusion. C'est vrai que le lieu était construit sur des modèles préexistants, qui étaient le modèle carcéral, c'est-à-dire qu'il fallait enfermer pour soigner, et il fallait surtout pas que ça sorte de là. Hein. Donc c'était l'établissement, autour de l'établissement, un trou, des grillages, etc. L'idée, de toute façon, c'était permettre une surveillance ininterrompue des sujets. Ils prenaient les mots, d'ailleurs, les mots théoriques de l'époque, c'était les sujets dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, hein, qui restent toujours, d'ailleurs, dans la loi. Les pavillons de traitement. C'est-à-dire que là, il était bien question de traiter la folie. C'était vraisemblablement la maison de santé. L'objectif était de persuader les gens que les gens y étaient bien traités. C'est vrai qu'au niveau esthétique, c'était tout à fait convenable. Au niveau de la qualité des soins, ça, c'est autre chose. Il n'y avait pas d'idéologie commune dans les soins. Là, on protégeait l'individu de sa famille. Enfin, c'était sur ordre de la famille ou sur conseil de la famille ou sur désir de la famille que les gens étaient hospitalisés. C'était des gens qui étaient vraisemblablement riches. Hein.
Vous avez la partie état civil. Elle a été hospitalisée à la demande de sa mère. Admise à Villévrard le 10 mars 1913, en ce qu'on appelait à l'époque un placement volontaire, selon la loi du 30 juin 1838. Elle était à la maison de santé, puisque à Villévrard, à l'époque, il y avait les malades payants, et le régime commun, ce n'était pas les malades qui payaient. Je sous-signais, docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles, sauf un fauteuil et un lit, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement, les volets étant hermétiquement clos, que depuis plusieurs mois, elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit, que d'après des lettres écrites tout récemment à son frère, d'après des propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin, qu'elle se figure être persécutée, que son état, déjà dangereux pour elle, est également dangereux pour ses voisins, et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé. Paris, le 7 mars 1913, signé Dr Michaud.
Radio Soin Soin, donc, l'excellente émission Radio Soin Soin sur Radio Galère, est ici, donc, relayée par Radio Libertaire. Voilà, ainsi se termine l'émission L'Entonnoir pour cette semaine. Salut.
Galère.